إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم دبخ أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه إلى دي J'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire « Quiconque parmi vous voit une chose blâmable, alors qu'il la change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors par son cœur. Et ceci est le niveau le plus faible de la foi. » Rapporté par Muslim. Donc comme vous le voyez, ce hadith, il est lié au commandement du bien et à l'interdiction du mal. Et ceci fait partie des fondements essentiels de la religion de l'islam. Et il y a en cela la réforme des individus et de la société. Le blâmable, c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit parmi les paroles, les actes, les comportements et ainsi de suite. Quant au bien, c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné comme paroles, actes, agissements, comportements et ainsi de suite. Et ce fondement immense qui est le commandement du bien et l'interdiction du mal fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux gens de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a dit au verset 104 de sourate Ali Imran: "Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil-ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Et qu'il y ait parmi vous un groupe de gens qui appellent au bien, qui ordonnent le convenable et qui interdisent le blâmable. Ceux-là sont ceux qui réussissent. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait du commandement du bien et de l'interdiction du mal une cause de la réussite. Et il en a même fait une des choses par laquelle se distinguent les gens de l'islam et qui fait d'eux la meilleure des communautés. Il a dit subhanahu wa ta'ala, quelques versets après, de la même sourate, au verset 110, « Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar » Vous êtes la meilleure communauté que l'on ait fait surgir pour les gens. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc accordé cette distinction aux gens de l'islam. Ils ordonnent le bien et le convenable et ils interdisent le blâmable. Contrairement à ceux des communautés qui ont précédé les gens de l'islam. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala leur enjoint le commandement du bien et l'interdiction du mal. Cependant, ils ne se sont pas soumis à cet ordre, ce qui leur a fait encourir la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit au verset 78 de sourate Al-Ma'ida: "Lu'ina alladhina kafaru min bani Israil 'ala lisani Daoud wa 'Isa ibn Maryam. Dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu." Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de Daoud et de Isa, fils de Maryam. Pourquoi? Parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. Puis il dit, subhanahu wa ta'ala, selon le sens rapproché, ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a donc maudits à cause de cela. C'est-à-dire qu'il les a exclus, éloignés et privés de sa miséricorde. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné à cette communauté le commandement du convenable et l'interdiction du blâmable. Car il y a en cela la réforme des individus et de la société. Et dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous enseigne la manière de nous soumettre à cet ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il commence tout d'abord par dire... Quiconque parmi vous voit une chose blâmable. C'est-à-dire, quel que soit celui parmi vous qui voit une chose blâmable. Et est-ce que ce qui est visé ici par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam voit une chose blâmable? C'est seulement la vision ou bien est-ce plus large que cela? La réponse est que c'est plus large que cela. En effet, cela englobe également le fait que tu entendes une chose blâmable de tes oreilles ou alors qu'une information te parvienne au sujet d'une chose blâmable ou ce qui est semblable à cela. Ce n'est pas limité au fait de voir le blâmable de ses yeux. Mais si tu es informé de sources sûres qu'une chose blâmable a été accomplie par telle ou telle personne ou en tel ou tel endroit, il convient également de le changer et de le blâmer comme nous l'ordonne le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Ensuite, il dit « Quiconque parmi vous voit une chose blâmable. » Le blâmable, on a dit, « Al-Munkar », c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit. Donc si une personne fait une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit, alors on doit le blâmer. Et on doit lui interdire ce blâmable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Alors qu'il le change par sa main. » C'est-à-dire qu'il empêche ce blâmable et ce mal d'être commis et il l'empêche avec quoi? Avec sa main. À titre d'exemple, une personne voit un de ses enfants ou un de ses proches avec une amulette. Alors il l'arrache de sa main, la détruit et lui enseigne que ceci est du polythéisme. Et il ne laisse pas le blâmable être commis sous ses yeux. Et ce blâmable, il est indispensable que ce soit une chose claire et évidente. C'est-à-dire qu'elle soit blâmable de façon claire et évidente, reconnue de tous. C'est-à-dire aussi bien par toi que par celui que tu vas blâmer. Mais si cela rentre dans une question qui est sujette à un effort de réflexion par les gens de science, alors ceci ne rentre pas dans l'ordre du prophète dans le hadith. Il est donc indispensable que cette chose blâmable, elle soit reconnue comme telle, par celui qui l'interdit, comme par celui qui le fait, et qu'elle ne fasse pas partie des questions sujettes à effort d'interprétation dans lesquelles la divergence est admise. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Et s'il ne peut pas, c'est-à-dire s'il n'a pas les capacités d'interdire ce mal par sa main, alors par sa langue, c'est-à-dire qu'il le blâme avec sa langue, en réprouvant ce mal, en le blâmant, en lui interdisant de faire cela, en lui portant le conseil, et en réprouvant son acte, et en lui faisant savoir que ce qu'il est en train de faire est une chose blâmable. Bien sûr, il est indispensable pour cela de faire preuve de sagesse dans le discours. Et la sagesse n'est pas toujours la douceur. La sagesse, c'est de mettre chaque chose à sa place. Il y a parfois besoin de douceur, et il y a parfois besoin de dureté, et chaque chose doit être utilisée selon la situation et selon la personne. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Alors par sa langue, est-ce que ceci est limité à la parole ?» La réponse est que ceci est plus large que cela. Entre également dans cela l'écriture, le fait de condamner le blâmable par l'écriture. Cela rentre dans l'interdiction du mal par la langue. Par exemple, si une personne a connaissance d'une chose blâmable qui est accomplie, alors elle le blâme à travers un écrit qu'elle va propager. Et ceci est notamment le rôle des personnes impliqués dans la prédication parmi les étudiants en sciences et les mashayikhs. En effet, lorsque les étudiants en sciences ont connaissance d'une chose blâmable en train de se répandre chez les musulmans ou chez les gens de la sunna, d'une chose qui va causer du tort aux musulmans, d'une chose qui va causer du tort aux prêches, alors dans ce cas, il fait partie de la responsabilité des prédicateurs et des étudiants en sciences de condamner cette chose blâmable avec leur langue, que ce soit en parlant ou alors par la rédaction d'un écrit, comme un communiqué ou autre chose, car ceci rentre dans l'interdiction du blâmable. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Et s'il ne peut pas, alors par son cœur. » C'est-à-dire que s'il n'a pas les capacités de condamner le blâmable, ni par sa main, ni par sa langue, alors il le blâme par son cœur. Par exemple, une personne n'a pas de science et ne sait pas comment condamner le blâmable et comment l'interdire ou le faire changer. Ou alors à la connaissance de cela, mais elle n'est pas en mesure de l'interdire. Par exemple, on lui a interdit de parler ou d'entrer dans ces sujets. Alors dans ce cas, elle condamne le blâmable avec quoi? Avec son cœur, en réprouvant la chose blâmable et en réprouvant les auteurs de cette chose blâmable et en s'écartant d'eux et en espérant que cette chose blâmable soit dissipée et qu'elle cesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ensuite, et ceci, c'est-à-dire le fait de changer le mal par son cœur, est le niveau le plus faible de la foi, c'est-à-dire le plus bas degré en ce qui concerne la réprobation du mal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on vient de le voir à travers l'explication concise de ce hadith, il nous a exposé les différents degrés et les différentes étapes concernant le fait de proscrire le mal. Et on va mentionner quelques bénéfices que l'on peut tirer de ce hadith. Premièrement, on compte parmi les bénéfices de ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a chargé l'ensemble de la communauté, lorsqu'il voit un mal, de le changer. Et ceci réfute les propos de certaines personnes qui disent « Mais qui vous a chargé de cela ? Qui t'a confié cette tâche ? De quoi te mêles-tu à rentrer dans les affaires des autres ou à te mêler de mes affaires et de ce que je fais ?» Si une personne t'adresse cette objection lorsque tu la conseilles pour lui interdire le mal, réponds-lui tout simplement « C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui m'a chargé de cela. » Il a dit « Quiconque parmi vous voit une chose blâmable. » Quiconque parmi les musulmans, quel qu'il soit, il n'a pas besoin d'avoir un rôle précis ou une fonction précise dans la société. S'il voit une chose blâmable, il doit la changer d'une des trois manières mentionnées dans le hadith en fonction de ses capacités. Car comme on l'a dit, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, il se trouve en cela la réforme des individus et des sociétés. Car les péchés, les désobéissances, les transgressions et les oppositions aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont des causes d'anéantissement et de perdition pour les sociétés. Et le remède à cela, c'est quoi ? C'est de commander le bien, de commander le convenable et d'interdire le mal et le blâmable. Et ce, en portant le conseil loyal, en ordonnant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont ordonné, et en interdisant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit. Et en faisant cela, tu ne te mêles pas d'une chose qui ne te regarde pas. Et tu ne t'immisces pas dans les affaires des gens, comme le disent certaines personnes parmi les gens touchés par l'hypocrisie, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Ils disent de ceux qui ordonnent le bien et qui interdisent le mal, ils s'immiscent dans les affaires des gens. Ils s'immiscent de choses qui ne les concernent pas. Et la réponse à cela, comme on l'a dit, c'est de leur répondre que ceci n'est pas une manière de s'immiscer dans les affaires personnelles des gens, mais c'est une manière de réformer les individus et la société, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a ordonné dans ce hadith, mais également, c'est une manière de faire preuve de loyauté envers l'ensemble des musulmans. Et on a vu dans un hadith précédent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit ? La religion, c'est quoi ? La religion, c'est la nasiha. Il le répéta à trois reprises. « Kulna liman ya Rasulallah ». Nous avons dit envers qui, au messager d'Allah ? Et il a mentionné, à la fin du hadith, et envers l'ensemble des musulmans. Donc il fait partie du conseil loyal, de la loyauté, de la nasiha, envers l'ensemble des musulmans, que tu ordonnes à ton frère le bien, et que tu lui interdises le mal. Et ceci fait partie de l'amour en Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant au fait de le laisser plonger dans son mal, et dans son péché, sans le blâmer, sans lui porter conseil, sans l'orienter vers le bien, ceci est en réalité une forme de trahison. Et c'est un manque de loyauté envers ses frères d'avoir un tel comportement. Si tu fais cela, tu ne t'es pas acquitté de ton devoir envers lui. Car tu as délaissé cet ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas fait preuve de loyauté envers ton frère et tu as délaissé également l'entraide dans le bien et la piété. Il fait partie du comportement du musulman qu'il aime le bien pour ses frères, qu'il aime pour ses frères ce qu'il aime pour lui-même. De la même manière que tu aimerais, si tu empruntes un mauvais chemin, que tes frères te conseillent et t'orientent vers le bien. Alors tu dois également, si tu les vois dévier ou si tu les vois faire des faux pas et se diriger vers un mauvais chemin, les rappeler à l'ordre et les orienter vers le bien et leur interdire le mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait de cela une des causes pour être sauvé de la perdition. En effet, comme on le sait tous, dans cette courte sourate que l'on récite et que l'on apprend tous, Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le temps que quoi ? Que l'ensemble des hommes sont en perdition. Wal asri, innal insana lafi khusr. Et il a fait exception d'une catégorie de personnes qui se caractérisent par quatre qualités. Et quelles sont ces qualités ? Illa alladhina amanu, sauf ceux qui croient. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, les œuvres pieuses, sincères pour Allah subhanahu wa ta'ala, conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa tawasaw bil haqq, et s'enjoignent mutuellement la vérité. Ceci est le bon conseil. Ceci est le commandement du bien et l'interdiction du mal. Et ceci fait partie des causes pour être sauvé de la perdition. Et qui s'enjoignent mutuellement l'endurance. C'est-à-dire l'endurance dans la foi, l'endurance dans l'accomplissement des œuvres pieuses et l'endurance dans le commandement du bien et l'interdiction du mal. Le fait de s'enjoindre mutuellement
la vérité. Donc comme vous le voyez, ceci fait partie des choses très importantes dans la religion de l'islam et qui permettent aux musulmans d'être sauvés de la perdition. Deuxièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'il n'est pas permis d'interdire une chose jusqu'à ce que tu aies la certitude qu'elle soit blâmable. Et ceci englobe deux choses. Premièrement, que tu t'assures que cette chose est réellement blâmable en islam, qu'elle fasse partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont interdites. Deuxièmement, que tu t'assures que ceci fait partie des choses blâmables pour cette personne à qui tu vas t'adresser. Car il est possible que ça ne soit pas blâmable pour elle, même si à la base l'acte est blâmable. Et on va donner un exemple qui nous permet de mieux comprendre cela. Le fait de manger ou de boire durant les journées de Ramadan, c'est une chose à la base qui est blâmable et qui est interdite. Cependant, il se peut que dans certains cas, cela ne soit pas blâmable pour certaines personnes. Comme si l'homme est malade, ne peut pas jeûner, ou alors qu'il est en voyage et qu'il lui est permis de rompre afin de boire et de manger. C'est pour cela que l'on dit qu'il est indispensable de s'assurer de deux choses. Que la chose soit réellement blâmable et qu'elle soit blâmable également de la part de son auteur. Troisièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'il est indispensable que cette chose que tu as interdit soit blâmable pour tous, pour son auteur ainsi que pour toi. Mais si cette chose fait partie des questions dans lesquelles la divergence est admise, alors il ne te revient pas de blâmer celui qui ne considère pas cela comme un mal. Sauf si la divergence à ce sujet est une divergence faible et qui n'a aucune valeur. Alors dans ce cas-là, on doit condamner et blâmer la personne. Car ce n'est pas toute divergence qui est admise. À titre d'exemple, si tu vois un homme manger de la viande de chameau, puis se lever et prier, il ne te convient pas de lui interdire cela et de le blâmer. Car cette question est sujette à divergence entre les gens de science. Certains considèrent que le fait de manger de la viande de chameau annule les ablutions. Et ceci est l'avis prépondérant, Inch'Allah, comme le prouve le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'autres considèrent que ceci n'annule pas les ablutions. Donc dans ce cas-là, tu ne peux pas interdire à la personne qui est convaincue de ce second avis de prier après avoir mangé de la viande de chameau sans refaire ses ablutions. Cependant, il n'y a pas de mal à discuter de cette question avec elle, avec science et sagesse, afin de lui exposer les preuves sur lesquelles tu te bases pour soutenir l'avis que tu considères comme prépondérant et de lui exposer la vérité à ce sujet. Donc pour que la chose soit blâmée, il est indispensable qu'elle soit blâmable pour tous. À partir de là, on peut donner un autre exemple concret et d'actualité, c'est qu'il ne convient pas de blâmer une personne qui a fait une chose qui d'autant plus est louable après avoir pris conseil auprès des savants de cette communauté. En effet, si ton frère a agi avec science en se basant sur des preuves et qu'en plus de cela, il est revenu avant d'accomplir cette chose aux grands savants de la communauté, a pris leur avis et qu'ils l'ont soutenu et encouragé dans son œuvre, alors il ne convient à personne de les blâmer pour cela. Et encore moins de mettre en garde contre eux. Ceci est une forme d'injustice. Et ceci est une forme de transgression. Wallahu al-musta'an. Quatrièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith qu'il n'y a pas de gêne dans la religion de l'islam. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a imposé aucune gêne. En effet, les obligations, elles sont conditionnées par le fait que la personne en ait les capacités. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. Et s'il ne peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors par son cœur. Et ceci est une règle générale qui s'applique dans tous les domaines de la religion. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit « Fattakullaha mastata'tum » « Craignez Allah autant que vous pouvez. » Tu fais le maximum de tes capacités. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » « Allah ne charge personne ou Allah ne charge pas une âme plus qu'elle ne peut supporter. » C'est-à-dire qu'il incombe aux musulmans de se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala autant que possible, au maximum de ses capacités. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith que l'on a déjà vu, « Ce que je vous interdis, écartez-vous-en, et ce que je vous ordonne, alors mettez-le en pratique autant que vous pouvez. » Donc ceci fait partie des facilités accordées aux musulmans, et ceci nous montre la bonté de cette législation qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée pour l'ensemble de l'humanité. Cinquièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que si l'homme n'a pas les capacités de changer le blâmable avec sa main, alors il le fait avec sa langue. Et s'il n'a pas les capacités de changer avec sa langue, alors avec son cœur. Et concernant le fait de changer le blâmable par la main, est-ce que ceci doit être fait en toute situation? C'est-à-dire à partir du moment où la personne a les capacités de changer le blâmable avec sa main. Est-ce que ceci lui incombe en toute situation? La réponse est que ceci n'est pas obligatoire de manière absolue. En effet, il se peut que la personne, elle craigne pour elle-même un mal plus grand que le fait de ne pas interdire ce mal. Elle craint une nuisance pour sa personne. Elle craint une nuisance pour ses proches, pour sa famille. Une nuisance plus grande que le fait de ne pas proscrire ce mal. Donc dans ce cas-là, il lui est permis de délaisser le fait de changer ce mal avec sa main. Et ce, en appliquant la règle qui est de repousser le mal qui est plus grand par celui qui est moindre. En application de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit au verset 108 de Surat Al-An'am, وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah, car par agressivité, ils injurieraient Allah dans leur ignorance. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il interdit le fait de dénigrer les fausses divinités adorées par les polythéistes en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car le fait de les dénigrer les pousserait à quoi? Les pousserait à dénigrer Allah subhanahu wa ta'ala, à injurier Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est un mal plus grand. Donc on repousse ce mal qui est plus grand par le mal qui est moindre, en délaissant le fait de dénigrer leur divinité. Également, le fait de proscrire le mal par sa main. Est-ce que ceci est pour l'ensemble des musulmans? La réponse est que le sens apparent du hadith est que ceci est pour toute personne qui voit une chose blâmable. Cependant, si on revient aux règles générales de la législation, alors on verra que ceci n'incombe pas à toute personne, surtout à notre époque. Car si on dit cela, il se peut que ceci soit une cause de désordre dans la société. Car des personnes par ignorance verront des choses qu'ils considèrent blâmables et iraient les changer avec leurs mains. Et s'en suivrait alors un désordre et des conflits entre les gens. Cependant, celui qui a une responsabilité, comme le chef de foyer par exemple, il lui incombe de changer dans son foyer le mal par sa main, car c'est lui qui est responsable de son foyer. Également, le gouverneur et ses intendants, il leur incombe de changer le mal par la main, car ceci est leur responsabilité. Il y a donc différents degrés dans l'interdiction du mal. Il y a l'appel et l'invitation à s'éloigner du mal, il y a le commandement et il y a le changement. Quant à la da'wah, le prêche, l'appel à délaisser le mal, ceci revient à tout prédicateur, à tout étudiant en sciences, à toute personne appelant au bien et interdisant le mal. Il invite les gens à accomplir le bien et à délaisser le mal. Il les met en garde contre les méfaits du mal et leur fait désirer l'accomplissement du bien en leur évoquant ses récompenses. Donc le cinquième bénéfice, on a dit, c'est que celui qui n'a pas la possibilité de changer le mal par sa main, il le change par sa langue. Et s'il ne peut pas, il le change par son cœur. C'est-à-dire qu'il réprouve ce mal dans son cœur, qu'il souhaite que ce mal cesse et qu'il a les fermes volontés que s'il en a les capacités, alors il le changera par sa langue ou par sa main. Et une question se pose ici. Est-ce qu'il suffit à la personne qui condamne le blâmable par son cœur de s'asseoir avec les gens qui accomplissent ce mal et de dire « je le réprouve dans mon cœur » La réponse est que ceci n'est pas suffisant. Et si cette personne était véridique, qu'elle réprouverait vraiment ce blâmable dans son cœur, alors elle ne se serait jamais assise avec ses auteurs. Il n'est pas possible pour une personne de réprouver le blâmable dans son cœur et de s'asseoir avec ceux qui commettent les choses blâmables et les péchés. Au contraire, si elle est véridique et qu'elle réprouve le blâmable dans son cœur, alors elle va s'écarter d'eux et dans ce cas-là, elle aura accompli son devoir. Donc on tire de cela un sixième bénéfice, qui est l'obligation de condamner le mal en toute situation et qu'il n'est pas permis de délaisser la condamnation du mal. Et le plus bas degré, c'est quoi? C'est le fait de le réprouver par le cœur. Ceci est le minimum obligatoire. Mais en aucun cas, la personne, elle n'a le droit de délaisser la condamnation du mal. Et comme on a dit, si le serviteur, il réprouve réellement le mal dans son cœur, alors il va s'écarter des auteurs du mal. Il ne va pas les fréquenter. Il ne va pas s'asseoir avec eux. Mais quant au fait qu'il s'assoit avec eux, il mange, il boit, il rigole avec eux, et il dit « je réprouve le mal dans mon cœur », ceci n'est pas vrai, ceci n'est pas correct. Si réellement il réprouverait le mal dans son cœur, alors il se serait éloigné de ses auteurs, afin de ne pas être touché par ce qui les a touchés, et afin de ne pas prendre part au péché avec eux. Et également, en s'écartant d'eux, il va leur faire ressentir qu'il n'est pas d'accord avec ces choses, et qu'il ne les approuve pas. Mais s'il reste assis avec eux, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont penser qu'il approuve ce qu'ils sont en train de faire comme blâmable. C'est pour cela qu'il n'est pas suffisant de rester avec eux et de dire « je réprouve le mal dans mon cœur ». Mais celui qui n'a pas la possibilité de changer le mal, ni par sa main, ni par sa langue, alors il le réprouve au moins dans son cœur et il ne reste pas avec les auteurs du blâmable. Le septième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est qu'il y a des œuvres qui sont accomplies par le cœur. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Et celui qu'il ne peut pas, alors par son cœur. » C'est-à-dire qu'il change le mal avec son cœur. En effet, le cœur, il a des œuvres et il a des paroles. Les paroles du cœur, ce sont ses croyances. Et ses œuvres, ce sont ses intentions, ses espoirs, ses peurs, et ainsi de suite parmi les œuvres du cœur. Huitièmement, on tire comme bénéfice de ce hadith que la foi, elle est composée de paroles, d'actes et d'intentions. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a compté ces trois étapes mentionnées dans ce hadith comme faisant partie de la foi. Le changement par la main, c'est une œuvre. Le changement par la langue, c'est une parole. Et le changement par le cœur, c'est une intention. Et tout ceci fait partie de la foi. Donc la foi, elle n'est pas restreinte à la croyance. Mais comme on l'a dit chez les gens de la sunna, on l'a vu dans d'autres hadiths, la définition de la foi, c'est que c'est une croyance du cœur, parole de la langue et œuvre du corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit dans un autre hadith, la foi est composée d'environ 70 branches. La plus haute est le fait de dire la ilaha illallah. La plus basse est de retirer un objet gênant de la route. Et la pudeur fait partie de la foi. Donc le fait de dire la ilaha illallah, ceci est une parole, ceci fait partie de la foi. Retirer un objet gênant de la route, ceci est une œuvre du cœur, et ceci fait partie de la foi. Quant à la pudeur, ceci fait partie des œuvres du cœur. Et tout ceci fait partie de la foi. Enfin, le neuvième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est que la foi, elle augmente et elle diminue. Ceci est la suite de la définition de la foi. C'est une croyance du cœur, une parole de la langue, une œuvre du corps. Elle augmente par l'obéissance à Allah et elle diminue par la désobéissance à Allah. Et comment on déduit cela de ce hadith? À travers la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Et ceci est le niveau le plus bas de la foi. Ceci est le niveau le plus faible de la foi. Le fait de réprouver le mal par son cœur. » Cela veut dire que les niveaux qui sont mentionnés précédemment, ce sont des niveaux plus élevés en termes de foi. Donc la foi, elle augmente et elle diminue. Elle n'est pas identique dans le cœur de l'ensemble des gens. Il y a parmi les gens celui qui a une foi forte. Il y en a d'autres qui ont une foi faible et d'autres qui ont une foi intermédiaire entre ceux-là. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos fois et de nous aider à l'accomplissement de l'ensemble des œuvres menant à l'augmentation de la foi et de nous préserver de l'ensemble des œuvres menant à la diminution de la foi. Ceci était donc quelques bénéfices que l'on tire de ce hadith. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayran.